Les 40 jours s'est transformé en 40 ans. 40 ans, pourquoi? C'est pour permettre à la génération et à la société de ne pas rentrer dans la terre pour eux. Tous ceux qui se sont levés contre Dieu et contre Moïse n'ont pas vu la terre pour eux. Dieu les a retranchés de ceux qui étaient promus pour entrer là où coulait le lait et le miel. Pourquoi Dieu choisit un peuple? Et pourquoi tout ce peuple choisi ne rentre pas dans la terre promise? Pourquoi les hommes, voyant toutes les merveilles de Dieu, se rebellent contre Dieu? Rappelez-vous, lorsque les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, mais c'est toujours toi qui vas à la rencontre de Dieu. Nous aimerions aussi, nous, entendre Dieu. Alors Moïse est monté vers Dieu. Moïse a reçu comme recommandation qu'il dira aux enfants d'Israël de faire une limite express, de se sanctifier pendant 3 jours. Et je descendrai visiter mon peuple. Ils ont obéi à Moïse. Ils se sont sanctifiés. Ils ont fait des limites express. Mais lorsque Dieu est descendu, ils ont pris la fuite. Parce que la parole de Dieu était comme le tonnerre. Et la terre tremblait. Ce Dieu redoutable, en qui les enfants d'Israël avaient leur confiance, en qui les enfants d'Israël pouvaient dire, nous avons un Dieu tout-puissant et nous n'avons peur de rien. Ils ont vu la manifestation de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu et quand même ça, ils se sont rebellés contre Dieu. Quand même ça, ils ont trouvé des choses à dire qui n'étaient pas bon devant Dieu. Et Dieu s'est vengé. Dieu s'est vengé et a dispersé les enfants d'Israël de manière à ce que le reste, je dis le reste parce que tous n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, c'est une partie qui se sont mis à prier, à jeûner et à demander la faveur de Dieu. Et Dieu les a répondu. Mais avant, que dit Daniel dans ses prières? Daniel prie Dieu pour demander le sort, d'apaiser le sort des enfants d'Israël. Mais qui entend nos prières? Dieu entend nos prières. Mais Satan aussi entend nos prières. Lorsque Daniel a prié, Daniel s'est jeûné, a prié, a interpellé Dieu. Dieu a entendu Daniel. Daniel 10, à partir du verset 9. Daniel 10, à partir du verset 9. J'entendis le son de ses paroles.
Et comme j'entendais le son de ses paroles,
oui.
Je pouvais frapper les yeux du son, la face sur le ciel.
Oui.
Et voici.
Voici.
Une main me toucha.
Oui.
Et se couvrant mes genoux et mes mains. Puis il me dit.
Il me dit.
Daniel.
Daniel.
Homme bien-aimé.
Homme bien-aimé. Cela veut dire que Daniel était de ceux qui s'étaient humiliés devant la face de Dieu. Et Dieu a entendu ses prières. Voilà que Dieu envoie un ange vers Daniel. Continue.
Sois attentif aux paroles que je vais te dire.
Sois, puisque tu as prié Dieu, tu lui as demandé des choses. Maintenant, sois attentif aux paroles que je vais t'annoncer. Oui.
Et tiens-toi debout
à la place où tu es.
Car je suis maintenant envoyé vers toi.
Dieu m'a envoyé vers toi. Quand il a entendu ta prière, continue.
Lorsqu'il m'a ainsi parlé,
oui.
Je me tiens debout en son nom. Il me dit,
Daniel,
ne crains rien.
Ne crains rien, car
dès le premier jour où
tu as eu à cœur de t'humilier devant Dieu, Dieu t'a entendu. Et c'est pour ça que je continue, que je suis auprès de toi.
Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et à cause de tes paroles que je fais.
C'est à cause de tes paroles, de tes supplications, que je viens auprès de toi aujourd'hui pour t'annoncer quoi? Vas-y.
Le chef du royaume de terre m'a résisté 21 jours.
Dieu m'a envoyé vers toi. Je suis l'ange qui vient vers toi. Mais pendant 21 jours, l'ange de Perse m'a retenu. 21 jours. Cela veut dire que lorsque nous prions Dieu, Satan aussi entend nos prières. Et il se manifeste. Ça dépend dans quelles conditions que nous nous trouvons par rapport à Dieu, par rapport à nos supplications, et nos prières sont entendues ou pas. Continue.
Mais voici.
Mais voici.
Michael. Le chef est venu à notre
cours. Oui.
Et je suis demeuré là auprès des rois de terre.
Oui.
Je veux maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car.
Oui, là.
La vision concerne encore ce temps-là.
Merci. Daniel a prié pour demander le sort des enfants d'Israël. Mais savez-vous qu'il y a les anges des nations? Qui sont ces anges-là? Il n'y a pas que les anges de Perse qui étaient opposés au retour des enfants d'Israël. La Grèce aussi était opposée au retour des enfants d'Israël. Les anges de la Grèce ne voulaient pas le retour des enfants d'Israël. Les anges de Perse, plus de 4 nations ne voulaient pas le retour des enfants d'Israël. Mais Dieu a parlé à Daniel pour lui faire savoir, après ses prières, voilà ce qui va arriver aux enfants d'Israël dans la suite des temps. Mais ce Dieu-là, Dieu fait justice, somme sans foi, Dieu fait justice, il fait miséricorde. Donc, le peuple, la partie du peuple, cette partie-là qu'il a imploré, qu'il a prié, c'est à cette partie-là que Dieu va imputer la justice.
L'Éternel fait justice.
L'Éternel fait justice.
Il fait droit à tous les opprimés.
Il fait droit à tous les opprimés.
Il a manifesté ses voies à Moïse,
ses œuvres aux enfants d'Israël.
L'Éternel est miséricordieux.
Il est miséricordieux.
Et compatissant.
Et compatissant.
Lent à la colère.
Lent à la colère.
Et riche en bonté.
Riche en bonté. Donc, merci. Que Dieu vous fortifie.
Amen.
Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on s'humilie devant Dieu, lorsqu'on prie Dieu de manière sincère, Dieu répond à nos supplications. Si les conditions sont réunies, quel que soit le barrage que fera Satan et ses anges, la prière que nous faisons vers Dieu ne va pas remonter sans effet. Parce que c'est Dieu même qui le dit. Humiliez-vous par le jeûne, la prière, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu est un Dieu, quand il promet, il réalise sa promesse. Mais Dieu a donné aux enfants d'Israël que 10 commandements. Dans les 10 commandements qu'il a donnés aux enfants d'Israël, le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi, et tu ne feras pas d'image taillée. Est-ce que c'est le cas? Parce que nous voyons dans beaucoup d'églises, le Saint Bernard, le Saint Bernadette, les Saint Victor, le Saint François, et tous devant eux, il y a ce qu'on appelle des troncs. C'est pas pour ça qu'on appelle ça des troncs. Donc, avec une petite tente où on fait des demandes en mettant de l'argent. Et le premier commandement de Dieu dit, tu ne feras pas d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant elle. Alors, cela veut dire que nous sommes en contradiction avec les commandements que Dieu nous a donnés. Le deuxième commandement dit quoi?
Qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas de la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
Bon. Ni de représentation des choses qui sont en haut, c'est-à-dire ni les oiseaux, il y a des hommes qui fabriquent des oiseaux et se prosternent devant eux. Il y a d'autres qui font les poissons marins et se prosternent devant eux. Il y a d'autres aussi qui feront des images, des statuettes, et vont se prosterner devant eux. Alors que Dieu a en horreur ces genres de choses. C'est pour vous dire à quel point les enfants d'Israël qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont vu la manifestation de Dieu, se sont permis de retourner vers leur ancienne pratique. Là, Dieu ne pardonne plus ces genres de choses. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il s'associe à ceux qui prennent conscience de leurs erreurs. Et à partir de ce moment-là, il se manifeste. Parce que Dieu n'est pas responsable de nos agissements. Dieu n'est pas responsable de tout ce que nous faisons. Dieu nous a créés libres. Il nous a donné une certaine liberté. Mais certains hommes prennent cette liberté pour argent comptant. Certains détournent la religion. Certains détournent les commandements de Dieu. Ils agissent comme si la chose leur appartenait. Dans toutes les congrégations, vous trouvez ces genres d'agissements. Des hommes qui se pensent, qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres, au-dessus des lois. Ils agissent comme si c'était leur affaire personnelle. Sans oublier qu'il y a des lois, des commandements, des préceptes, des choses qu'on doit respecter. Les enfants d'Israël hier ont agi ainsi. Aujourd'hui, nous agissons aussi pareil au sein de notre communauté. Nous sommes des puissants hommes devant les hommes et devant Dieu, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes poussière. Nous sommes des cafards devant Dieu. Est-ce que vous voyez que Kappa a raison devant une poule? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu que Kappa résister à une poule? Jamais. Et pourtant, Kappa, quand il ouvre ses ailes, il est grandiose, il a beaucoup de personnalité. Mais avec la poule, ça ne plaisante pas. Est-ce que vous avez déjà vu un homme debout à son balcon, se voir passer dans la rue? Il y a des hommes qui agissent comme s'ils étaient à leur balcon et se voient passer dans la rue. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'homme est devenu égoïste, orgueilleux, même devant la face de Dieu Tout-Puissant, l'homme est devenu, je dirais, presque immortel devant Dieu. L'homme se croit puissant devant Dieu, alors que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Mais, si nous prenons le livre de Deutéronome 32, Deutéronome 32, verset 6-7, ça dit quoi? Ça dit que nous ne sommes pas, Dieu n'est pas responsable de nos agissements.
Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable?
Est-ce Dieu que nous rendons responsable?
Peuple insensé et dépourvu de sagesse.
Peuple insensé et dépourvu de sagesse.
N'est-il pas ton père?
Dieu n'est-il pas notre père?
Ton maître?
Notre maître.
N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi?
Oui.
Rappelle à ton souvenir les anciens jours.
Oui.
Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront.
Merci. Alors, voilà un passage qui nous concerne tous. Nous sommes arrivés un jour, par hasard, pour certains, un jour parce qu'on était malade, un jour parce qu'on avait des difficultés, des problèmes dans l'église du christianisme. Oui. Et voilà que nous sommes devenus des chrétiens célèbres. Donc, nous sommes des co-héritiers de la mission de Papa Oshofa. Nous sommes les co-héritiers de l'église du christianisme céleste. Mais, à peine entrés dans l'église, nous sommes déjà des puissants connaisseurs. C'est pas vrai? Des puissants connaisseurs. Et nous oublions même qu'il y a les anciens. Nous ne prenons même pas conseil des anciens. Comment pouvons-nous échapper à un si grand malheur? Papa Oshofa disait qu'il a tout enseigné dans l'Église. Mais que celui qui veut se lever et faire ce qu'il veut, c'est l'Esprit Saint qui lui fera défaut. Donc, si nous ne voulons pas que l'Esprit Saint nous fasse défaut, je pense que nous devons nous appeler à prendre conseil des anciens, à leur poser des questions et à agir fidèlement selon ce que Papa Oshofa a enseigné. Mais aujourd'hui, c'est le grand désordre. Personne ne sait où il est, personne ne sait où il va, personne ne comprend la congrégation dont il est dedans, parce que nous avons cette fâcheuse habitude de n'écouter personne et de faire ce que nous voulons dans la voie de Dieu. Si Dieu a mis en place les anciens, si Dieu a mis en place des ordonnances, des préceptes et des recommandations, il y a bien une raison. Ésaïe 45, verset 9-10. Ésaïe 45, verset 9-10. Que dit Ésaïe?
Malheur à qui conteste avec son Créateur.
Malheur à qui conteste avec son Créateur.
Vase parmi les vases de terre.
Vase parmi les vases de terre.
L'argile,
dit-elle à celui... L'argile! Oui, l'argile qu'on pétrit là pour faire les vases. L'argile. Est-ce que l'argile conteste avec le potier? Non! Qu'est-ce dit Ésaïe? Ésaïe dit que, vas-y, que l'argile ne peut contester avec le potier.
Dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu?
Puisque c'est le façonneur qui lui donne la forme qu'il veut. Si le... Mais c'est grave. Si celui qui fabrique refuse de donner la forme. C'est à lui de dire, bon, ça ne m'intéresse pas, et maintenant, je déforme et je donne la forme que je veux. Continue. Continue.
Ton œuvre n'a point de main.
L'œuvre que nous faisons n'a point de main. Oui.
Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré?
Oui, continue, continue. Et
à ta mère, pourquoi m'as-tu enfanté?
Merci. Ça veut dire quoi? La religion ne peut confesser avec le potier. Parce que le potier, il est maître. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est maître de nous. Si Dieu a envoyé l'église du Christ à l'intérieur, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il y a une raison. Et le problème, c'est que lorsque nous contestons avec nos supérieurs, nous devenons fragiles. Mais lorsque nos supérieurs, eux, se comportent mal envers nous, ils sont fragiles aussi. Dans les deux cas, il y a la fragilité. Mais Dieu, qui est un Dieu puissant, se sert de nous de manière à protéger certains, de manière à garder certains précieusement pour son œuvre. L'œuvre de l'Église du Christ est gigantesque. Nous mourrons, mais nous serons l'Église du Christ derrière nous. Elle sera ce que Dieu voudra. Mais en attendant, nous sommes l'argile et Dieu est le potier. Quel que soit ce que nous ferons, si nous ne mettons pas Dieu en avant de toute chose, nous allons nous casser de nous. Dieu, il est tout puissant. Il est miséricordieux. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin
que quiconque croit en lui
ne périsse point,
mais qu'il ait la vie
éternelle. Mais
qui est la vie éternelle. La vie éternelle est donnée par qui? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que fait Jésus dans la deuxième lecture? Il donne la vie. Et il rend justice à une femme veuve qui craignait Dieu et qui pleurait amèrement d'enterrer le seul fils unique qu'elle avait. Et Jésus a eu compassion de cette dame. Jésus étant un grand visionnaire, un grand prophète, a vu la peine de cette femme. Et si nous prenons le livre de Luc, dans
le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle.
Le Seigneur Jésus vu la femme et eut une grande compassion.
Et lui dit, ne pleure pas.
Ne pleure pas.
Il s'approcha et toucha le cercueil.
Oui.
Ceux qui le portaient s'arrêtèrent.
Oui,
il dit,
oui.
Jeune homme,
je te le dis,
lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler.
Mm-hmm.
Jésus le rendit à sa mère.
C'est pour cette œuvre-là que nous sommes venus dans l'église du Christ. Et non pas pour s'entretuer, se battre. Dieu ne nous a pas appelés dans l'église du Christ pour nous entretuer, mais pour guérir les malades, pour sauver ceux qui sont dans la tribulation. Jésus nous a appelés, hommes et femmes, dans cette église, pour une œuvre. Il ne nous a pas appelés à la bagarre, il ne nous a pas appelés à la haine, mais tout simplement à nous aimer les uns les autres, parce que bel et bien, leur église a perdu l'essentiel, l'amour. L'amour. C'est ce que l'église a perdu. L'église n'a pas perdu sa puissance. L'église n'a rien perdu de sa puissance. La puissance est là. La force de l'église est là. Mais c'est les hommes. C'est les hommes qui contrecarrent le plan de Dieu. Et c'est les hommes qui mettent en péril, je dis bien en péril, la puissance de l'Église. Et c'est les hommes toujours qui n'ont pas du monde, parce que c'est eux qui ne vont pas trouver satisfaction à leur moment. Nous sommes ce que nous sommes. Dieu nous a appelés pour le servir au sein de l'Église du christianisme. Essayons de nous donner les moyens de servir Dieu dans de bonnes conditions. Aimons-nous les uns les autres. Essayons de se supporter. Je ne dis pas de se donner bonne conscience, parce que nous ne sommes pas de donneurs de conscience. Nous avons des objections, nous avons chaque tête, chaque esprit. Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de jeu. Il y a de nous. Parce que c'est ensemble que les apôtres ont servi Jésus-Christ. C'est ensemble, après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont travaillé pour faire du monde la chrétienté. Jésus les a enseignés, Jésus leur a dit, allez porter la bonne nouvelle. Jésus leur a dit de ne pas prendre argent, de ne prendre ni argent, ni vêtements, ni bagages. Mais tout simplement, si vous allez en quelque part et on ne vous reçoit pas, de faire quoi? De secouer la poussière de ses chaussures et de se retourner. Promptement. Donc, mes frères et sœurs, pour terminer, je vais vous dire ceci. Je reviens de voyage. J'ai eu à faire des réunions, à écouter certains. J'étais en réunion avec le parler de devancer des délais, etc. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté de l'avenir de l'Église. Nous avons discuté aussi en Guadeloupe avec le Yongin. Pas lui, hein, mais c'est son frère. Mais il était là, il a assisté, je demandais qu'il assiste à cette réunion. Et je vous assure que tout le monde dit la même chose. Que l'Église a besoin d'organisation. L'Église a besoin de vous tous. L'Église a besoin de tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais quelquefois, lorsque les plus grands ont les oreilles bouchées, et ne comprennent pas l'appel des plus petits, alors eux aussi, ils sont des responsables. Mais ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas de paroisse. Vous entendez ce que je dis? Est-ce qu'il y aurait eu des devanciers sans fidèles? Et est-ce qu'il y aurait eu de paroisse sans fidèles? Qui c'est qui évangélise alors? Ce sont les responsables de paroisse qui évangélisent. Et ce ne sont pas les grands messieurs qui sont assis au-dessus. Hein. Pour enlever ça dans la tête. Hein. Donc, si nous faisons un travail d'évangélisation pour faire venir les fidèles au sein des congrégations, au sein des paroisses, pour les apprendre à respecter les lois, à se conformer, à avoir la foi pour être des chrétiens fervents, pourquoi casser leur foi à un certain moment lorsqu'ils sont établis au sein de l'Église? Pourquoi casser leur foi? Il y a beaucoup de gens qui sont chez eux. D'autres sont dans d'autres congrégations. Est-ce que vous pensez que ça accorde des fidèles entre nous? Non. Ça accorde de tous ceux qui sont au-dessus de nous. Que Dieu change leur cœur.
Amen.
Que Dieu leur donne la sagesse et l'intelligence.
Amen.
Parce que ils ont une clé. Ou du moins, ils ont des clés. chaque paroisse est une maison. Et ils ont une clé de chaque maison. Et dans chaque maison, il y a des biens. Les biens, c'est le fidèle. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Mais si par malheur, ils perdent ces clés-là. Si par malheur, à cause d'eux, il y a le feu dans la maison. Si par malheur, à cause d'eux, il arrive quelque chose à un des plus petits, que Dieu fasse sa volonté. Que Dieu ait pitié de nous.
Amen.
Et que Dieu nous accorde la sagesse et l'intelligence pour nous, pour pouvoir nous
agir. Amen. Amen.